BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie avec notre partenaire le BCG Boston Consulting Group. On va parler d'un sujet dont on ne parle pas souvent dans ce BFM Stratégie, c'est la gestion d'actifs. C'est un secteur en pleine mutation. On appelle ça aussi les ETF, les Exchange Traded Fund et les ETF actifs. On va comprendre tout ça. C'est des fonds d'investissement cotés en bourse. Ils étaient encore marginaux il y a 5 ans, mais ils connaissent aujourd'hui une croissance assez spectaculaire. On va voir ça avec notre invité. Mais justement, on va essayer de comprendre un peu ces ETF actifs. Est-ce que c'est un marché très américain, très anglo-saxon? Est-ce que l'Europe, la France a son mot à dire? On va en parler avec Maël Robin. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Maël, merci d'être venu. Vous êtes directeur associé au BCG, spécialiste de l'industrie de la gestion d'actifs. Alors, première question. Voilà. Alors, j'ai donné la traduction anglaise Exchange Traded Fund, des fonds d'investissement cotés en bourse. Mais ETF actifs, alors expliquez-nous un petit peu, décrivez-nous un peu de quoi on va parler là, ensemble pendant un quart d'heure.
Bien sûr. Merci pour votre invitation. Alors, un ETF actif, c'est avant tout un ETF, c'est-à-dire en bon français, comme vous l'avez rappelé à vos auditeurs, un fonds négocié en bourse ou un exchange traded fund en anglais. C'est-à-dire que c'est un fonds d'investissement qui a fait le choix de proposer à ses investisseurs de souscrire à des parts directement sur les marchés boursiers.
D'accord.
Ça veut dire que vous connaissez la valeur de cette part en temps réel et vous pouvez décider de l'acheter ou de la vendre quand vous le souhaitez, quand les marchés sont ouverts.
Et alors pourquoi il y a ce mot actif? J'imagine qu'il y a passif du coup de l'autre côté.
Exactement. Alors la grosse différence entre un ETF actif et un ETF passif, c'est le moteur de gestion, le moteur d'investissement qui est derrière. Contrairement aux ETF passifs, dont le moteur, c'est concrètement et assez simplement de répliquer un indice boursier connu à l'avance, l'ETF actif, il y a une vraie...
On se sur le CAC 40, par exemple, c'est ça?
Le CAC 40, le S&P 500, ou même des indices plus sophistiqués, mais la grosse différence, c'est qu'ils sont déterminés à l'avance. Là où un ETF actif, il va y avoir une équipe d'investissement derrière qui prend des décisions, soit pour tenter de battre un indice boursier avec les allocations qui sont les leurs, soit pour tenter d'optimiser le couple rendement-risque. Donc, en résumé, concrètement, c'est un peu la volonté de combiner le meilleur des deux mondes. D'une part, les avantages traditionnels des ETF dans l'ensemble, c'est-à-dire simplicité d'accès, transparence, les frais maîtrisés. Mmh. Et d'autre part, la valeur ajoutée de la gestion active, c'est-à-dire une analyse, un vrai travail de fond fait sur l'analyse des sous-jacents, les meilleures actions, les meilleures obligations, et un travail en continu sur l'allocation du panier de valeurs qui constitue le fonds.
Alors, c'est ceux qui nous regardent, nous écoutent, alors soit en live à l'antenne ou alors en podcast, en replay, s'ils tapent ETF actif, ils se rendent compte que voilà, aux États-Unis, c'est, je ne sais pas si on peut dire une lame de fond, mais en tout cas, ça s'accélère. Ça arrive en Europe, mais est-ce qu'en Europe, c'est juste un effet de mode parce que les États-Unis le font? Alors, il se passe vraiment quelque chose?
Alors, la vérité, c'est que c'est en Europe et aux États-Unis encore un marché de niche.
Ah oui.
On vous a amené un graphique qui vous montre l'évolution de la structure des supports d'investissement dans le monde depuis 10 ans, entre les solutions passives, qu'elles soient en ETF ou pas en ETF en bas, qui font, et on voit que ça grignote d'ailleurs des parts de marché sur les gestions actives.
Donc, en 2014, on a des ETF actifs aux alentours de 8,7% du marché.
Les ETF actifs sont la petite ligne tout en vert, tout en haut.
Ah oui, 0,1%, d'accord.
On part de rien il y a 10 ans, ou pratiquement rien. Et on est aujourd'hui toujours à pas grand-chose, à va dire à 1,7%. Mais en revanche, ce qui est fascinant, ça a été l'augmentation que ces ETF actifs ont connue depuis maintenant 2-3 ans.
Donc c'est moins de 2% des ETF voilà.
C'est moins de 2% de toutes les solutions d'investissement collectif. Et aux États-Unis, c'est plutôt de l'ordre de 8% de l'ensemble des ETF. Donc ça a fortement progressé depuis 2019. Et en Europe, c'est aujourd'hui moins de 2% également des ETF, mais on voit la tendance progresser et le rythme de progression des dernières années est remarquable.
Et en valeur, on parle quand même en dizaines de milliards de dollars, d'euros.
Alors, c'est encore très faible. Si on va sur le graphique suivant notamment, en Europe uniquement, et si on prend que les ETF actifs, ça reste tout petit, c'est 54 milliards d'euros.
Oui.
Mais néanmoins, il y a un seuil symbolique qui a été franchi l'année dernière. Et vous voyez que l'accélération, elle est de 28% sur longue période, mais la seule année 2024, c'était plus de 84% de hausse. Et l'autre métrique importante, qui est l'évolution de la collecte nette, c'est-à-dire qui montre l'attractivité du support pour les investisseurs, parce que ça mesure les entrées et les sorties sur ce type de support, on n'était quasiment à rien pendant plusieurs années. Et à partir de 2021, il y a une marche qui est franchie. Et à partir de 2024, cette collecte nette, elle fait x3.
Oui, parce que c'est ce qu'on dit depuis le début. Enfin, ce que je faisais remarquer, on parle d'une accélération. On parle d'ici 5-6 ans, on parle de 400 milliards. Hein. C'est quand même, voilà, on va multiplier par 8, voire par 10, voilà, si ça va encore plus.
Surtout, vite. Dans l'industrie, on sait qu'il y a pas mal de segments qui sont un peu en difficulté pour croître. On voit notamment que la gestion active classique, elle a du mal à trouver de la croissance. Là, on a un segment de l'industrie qui reste encore petit aujourd'hui, mais qui a des taux de croissance qui sont parmi les plus élevés de toutes les classes d'actifs proposées sur le marché. Quoi.
Et alors, le parallèle avec les États-Unis, ouais, on suit à peu près la même courbe, hein, c'est ce que vous disiez ?
Alors, on observe généralement que ce qui se passe aux États-Unis arrive en Europe 5 à 10 ans après. Ouais. Donc effectivement, si on devait tirer les traits, le 300-400 milliards que vous évoquez, il est tout à fait juste. Et on se dit que d'ici 2030, les ETF actifs pourraient être de l'ordre de 5% de l'ensemble des ETF vendus en Europe.
Et alors, comment vous expliquez ? Alors, vous dites en 2021, on a franchi un pas. 2024, on est en train d'accélérer. A priori en train d'accélérer. Comment vous expliquez un peu cette dynamique un peu là tout d'un coup qui s'accélère.
Non, vous avez raison. C'est vraiment une accélération qui s'est passée depuis quelques mois. Mmh. Et on en a beaucoup parlé dans le petit milieu de l'asset management sur d'où vient cette accélération. Il y a un peu une combinaison de trois facteurs. Quelque chose lié aux investisseurs, évidemment, ce que font les régulateurs et puis les sociétés de gestion en elles-mêmes. Les investisseurs, on sait que les ETF, c'est à la mode, c'est un effet du halo positif, notamment sur la question des frais. Oui. Et donc là, on dit ETF actif, la promesse du client, elle est attractive. C'est une gestion de conviction active sur des marchés financiers.
On comprend assez bien le fonctionnement. Voilà, on n'a pas besoin de faire des équations mathématiques dans tous les sens. Enfin, d'autres les font pour nous, mais
c'est exactement ça. Vous savez que vous n'allez pas juste bêtement répliquer un indice, et pour autant, on vous promet que les coûts seront pas si élevés que ça par rapport à les gestions actives, qui sont souvent un peu coûteuses, quoi. Donc il y a cet effet-là qui, du point de vue investisseur en particulier, a le potentiel de parler beaucoup. Ensuite, côté régulateur, il y a eu des évolutions des régulateurs luxembourgeois et irlandais qui maintenant autorisent un peu plus d'adaptation sur la transparence. Mmh. Un ETF, historiquement, c'est quelque chose de transparent, c'est-à-dire que chaque jour, vous communiquez sur l'indice qui compose votre portefeuille d'investissement. Les régulateurs, maintenant, bougent là-dessus, sont prêts à différer cette transparence, ou la rendre semi-transparence, pour que les asset managers qui étaient un peu réticents, qui freinaient à présenter leur secret de gestion, entre guillemets, puissent le faire dans un format ETF actif.
Et du coup, ça veut dire, on a parlé des investisseurs, du régulateur, mais les sociétés de gestion, elles ont leur rôle à jouer. Enfin, elles poussent un peu plus parce qu'elles sentent que c'est en train de bouger aussi.
Il y a plusieurs mouvements, mais effectivement, les sociétés de gestion, elles voient bien que les ETF passifs, il y en a beaucoup, c'est des très gros volumes, c'est des affaires de très gros acteurs pour tirer les coups vers le bas. En revanche, les ETF actifs, c'est encore un marché où on peut se différencier par l'innovation. Et donc, elles sont tentées de se dire, si je veux faire les ETF, faisons-le en ETF actif, où j'ai un savoir-faire de gestion et je peux encore me différencier sur autre chose que sur le prix.
Mmh. Et alors, si on fait la différence entre les ETF actifs, justement, l'intérêt pour des personnes qui nous écoutent, qui veulent investir, qui veulent regarder tout ça, qui veulent faire appel à des sociétés de gestion, entre un ETF actif pour l'investisseur et puis des solutions plus traditionnelles. Parce que, comme on dit, ça reste un petit marché, même si ça va s'accélérer.
Bon, moi j'en verrais trois pour un investisseur, et notamment un investisseur particulier. C'est un peu différent pour les investisseurs institutionnels. Ouais. Mais pour les particuliers, il y a la simplicité et la facilité d'accès. Si vous avez un compte titre en bourse, que vous êtes abonné à une plateforme de brokerage, de trading en ligne, vous pouvez souscrire à un ETF n'importe lequel en Europe, notamment ces ETF actifs. Donc vous pouvez rentrer et sortir sur différentes stratégies d'investissement. Là où les fonds d'investissement, faut accéder à la plateforme qui les distribue.
Vous dites pour les particuliers ?
Pour les particuliers, oui.
Et à un particulier, juste pour savoir comme ça, tiens, parce que c'est la question que se pose peut-être, c'est quoi ? Il faut mettre 1000 euros, 10 000 euros, 100 euros
Oui, c'est une très bonne question. C'est l'avantage des ETF, c'est que les parts sont de petite valeur, donc on peut effectivement y rentrer avec quelques centaines d'euros. Et puis après, il y a les plateformes qui proposent de fractionner tout ça. Donc on peut vraiment y rentrer avec des petits montants. C'est d'ailleurs une des principales propositions de valeur de ces supports-là, passifs et actifs.
Et vous disiez tout à l'heure, flexibilité, transparence
Ouais, flexibilité et transparence, parce que vous savez du coup combien vaut votre part en temps réel. Donc c'est super important. Après, il y a la question du prix.
Ouais. Les frais, souvent, on est un peu bloqué par ça, parce qu'on se dit, ça me coûte cher.
Les ETF ont mis un peu un coin dans le sujet. C'est-à-dire que les ETF passifs, c'est pas cher. Mm-hmm. Les ETF actifs, ça reste pas cher, même si c'est plus cher qu'un ETF passif. Hein, c'est 5 fois plus cher qu'un ETF passif en moyenne. En revanche, un ETF actif, ça reste nettement moins cher qu'un fonds de gestion actif traditionnel. Et c'est là que, du coup, il y a un peu une promesse qui peut être annoncée. C'est, vous avez une gestion active, mais un coût qui est 2 à 3 fois moins. On parle de 30 à 40 points de base, ce qui veut dire quand vous mettez 100 euros dans un ETF actif, on va vous prendre de l'ordre de 30 à 40 centimes à l'année pour opérer cette solution-là.
Et alors, ça veut dire que enfin, j'imagine que l'engouement aussi tient lieu du contexte actuel. Voilà, on cherche des choses simples, flexibles, transparentes.
Ouais. Alors, il y a eu plusieurs choses. Déjà, je pense que les investisseurs apprennent maintenant un peu ce que sont les limites de la gestion passive. Donc, ils ont bien vu, notamment au début d'année, les marchés ont fait les yo-yo et les solutions passives ont fait le yo-yo avec. Là, avoir un peu de gestion active qui permet de gommer un peu ces effets de marché, bah, ça a de la valeur. Et par ailleurs, c'est vrai que avec le gain sur le marché, le gain de vitesse des plateformes en ligne, les fintechs, les e-money, les brokers, etc., les ETF vont gagner en présence de marché, et de fait, les ETF actifs vont aussi gagner en présence de marché.
Et je regardais en préparant l'investissement, il y a aussi beaucoup, on peut investir de façon thématique hein, sur le climat, l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup.
C'est un futur relais de croissance, ouais. C'est peut-être pas encore celui qui se fait le plus, mais on est assez convaincu que l'investissement thématique qui permet de pas juste prendre un ETF un peu standard, mais d'y mettre un peu une couche de gestion fondamentale, c'est-à-dire une couche de recherche par-dessus, peut attirer les investisseurs qui veulent faire de l'IA sans pour autant acheter que les très gros titres, très grosses valeurs américaines qu'on connaît.
Et aujourd'hui, c'est les Américains qui tirent quand même ces ETF actifs. On parle beaucoup de JP Morgan AM.
Ouais, alors, les Américains tirent toute l'industrie de la gestion d'actifs.
Oui,
je pense qu'ils font. On va être conscient, il y a un asset manager seulement dans le top 10 mondial, et c'est encore vrai, effectivement, sur les ETF actifs en Europe. Il y a un leader incontesté qui était JP Morgan, vous avez raison, 65% de part de marché. Il s'est lancé très tôt sur le sujet en venant des États-Unis. Derrière, on a des très gros, hein, les Amundi, les Pimco, les Fidelity.
Les traditionnels, ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la part des petits acteurs de ce segment-là, qui font les ETF actifs, elle progresse dans le temps. Et on voit de plus en plus d'acteurs de petite et moyenne taille européens qui se lancent et qui proposent depuis ces derniers mois. Chaque semaine, on a un ETF actif qui se lance parce qu'ils se disent, on prend pied sur l'industrie avec ce véhicule-là.
Et du coup, ce serait quoi le conseil, là, pour, justement, un acteur qui voudrait se positionner?
Alors, le conseil, c'est, il faut réfléchir au, il faut réfléchir quel va être le moteur de gestion que vous allez proposer pour être différenciant par rapport à vos fonds d'investissement classiques. Comment se différencier par rapport aux concurrents. Ensuite, il faut faire attention parce que c'est un savoir-faire un peu différent qu'il va falloir apprendre à opérer ce type de produit sur les marchés, que ce soit les relations avec les opérateurs boursiers, que ce soit la position de reporting automatisée. Et puis enfin, il faut aussi faire attention à la force de vente. Hein. C'est une force de vente qui mérite d'être formée spécialement à la vente d'ETF. Ah oui. Elles ne vont pas comme un fonds classique. Donc pour tout ça d'ailleurs, pour distribuer ce type de produit-là, il y a des plateformes en marque blanche qui proposent des solutions clés en main pour aider les petits acteurs à accélérer et à se lancer avec des coûts fixes un peu plus faibles au démarrage.
Bien, merci. Maël Robin, directeur associé au BCG, spécialiste de l'industrie de la gestion d'actifs. Voilà, vous en savez sans doute un petit peu plus hein, sur les ETF actifs et savoir, c'est un marché en devenir qui accélère. Donc, allez-y, positionnez-vous. Enfin, voilà, on espère vous avoir donné quelques conseils. Si vous n'avez pas tout suivi, en replay, en podcast, vous pouvez retrouver bien entendu tout cela. Merci encore, Maël Robin. À très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.